Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, nous allons parler du 8e album des Rolling Stones et dernier enregistré sur le label Decca. Il s'appelle Let It Bleed et il est sorti le 5 décembre 1969. 6 membres officiels du groupe ont participé. Brian Jones au début avec ses camarades habituels, et puis progressivement il a été remplacé par Mick Taylor, qui par la suite restera avec le groupe. La majorité de l'album fut enregistrée en 1969 aux Olympic Studios de Londres, avec le producteur Jimmy Miller et l'ingénieur du son Clint Jones. La plupart du temps, sans la présence de Brian Jones qui fera des apparitions assez réduites. Le 8 juin, en effet, Brian Jones et les Stones se séparent définitivement et Mick Taylor devient son remplaçant officiel. Le groupe donnera d'ailleurs son fameux concert gratuit à Hyde Park le jour suivant, avant que ses membres ne se séparent pour l'été. Et en fait, malheureusement, décédé dans la nuit du 2 au 3 juillet 1969 dans sa piscine, Brian Jones est quant à lui mort trop tôt pour voir le résultat de sa dernière collaboration avec les Stones. De mi-septembre à mi-octobre, entrecoupé d'une tournée aux USA, les sessions de finalisation de l'album se feront à Los Angeles, dans les studios Elektra et Sunset Sound Recorders, où l'album sera mixé. L'album sortira sur le territoire américain en fin novembre 1969. C'est un album de transition entre l'époque Brian Jones et son successeur Mick Taylor. Le premier était fervent de psychédélisme et essayer de chercher toujours de nouvelles sonorités. Son successeur est plus blues rock et provient de cette culture initiée par John Mayall et qui donnera tant de grands artistes et de grands guitaristes au blues rock britannique. Let It Bleed contient plusieurs standards du groupe qui ont marqué très fortement le répertoire des Stones. Pour commencer, on va écouter ma chanson préférée du répertoire complet des Rolling Stones, Gimme Shelter. Elle est classée en 38e position par le magazine Rolling Stone des 500 meilleures chansons de tous les temps. Le critique rock américain Gail Marcus a écrit à propos de cette chanson, dans le magazine Rolling Stone justement, que le groupe n'avait jamais rien fait de mieux. Gimme Shelter est issue d'un travail commun de Mick Jagger et Keith Richards. Elle veut parler au niveau des paroles de la guerre du Vietnam. C'est ainsi que Mick Jagger dira en 1995 que le Vietnam n'était pas la guerre au sens conventionnel du terme. Et il ajoute que sur la chanson elle-même, c'est une sorte de chanson de fin du monde, vraiment tirée vers l'apocalypse. D'où des paroles évoquant la recherche d'un abri, the shelter, face à la tempête à venir. On craint à ce moment-là que tôt ou tard les grandes puissances ne délivrent l'arme atomique. Et tout cela dépeint des images de dévastation et d'apocalypse sociale, en insistant également sur le pouvoir de l'amour néanmoins. La chanson débute avec une intro ciselée comme sait les faire Keith Richards, suivie par la voix de Jagger. La seconde voix d'ailleurs est une voix féminine, ce qui est assez peu fréquent. Il s'agit de la choriste américaine Mary Clayton. Et dans son livre, Mick Jagger, son autobiographie, il indique à ce sujet qu'il s'agissait d'une idée de leur producteur. L'anecdote raconte que Mary Clayton se trouvait chez elle un soir à Los Angeles, enceinte et avec des bigoudis dans les cheveux. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu sonner le téléphone. C'était les Stones qui lui demandaient de venir chanter sur une de leurs chansons. Vous imaginez le tableau. Bref, elle se prépare, elle se précipite au studio, et arrivée au studio, justement, elle découvre stupéfaite les paroles qui parlent de meurtre, de viol, de guerre, mais elle accepta néanmoins de chanter. Il s'agit d'ailleurs de l'une des contributions les plus importantes faites par une chanteuse à une chanson des Rolling Stones. Pour le reste, Nicky Hopkins joue au piano, c'est Mick Jagger qui joue de l'harmonica, et on peut dire aussi que cette chanson, qui est Mick Jagger, n'est jamais sortie en single malgré son succès et sa réputation. Elle est devenue un standard des concerts du groupe à partir de leur tournée américaine de 1969, notamment avec la choriste Lisa Fisher. Thank you. C'était Gimme Shelter par les Rolling Stones sur Roxy Web Radio. La deuxième chanson de l'album s'appelle Love in Vain. C'est une chanson de blues écrite et composée par Robert Johnson et sortie en 1937. Elle fit l'objet de nombreuses reprises et en 2011, elle fut même introduite au Blues Hall of Fame de la Blues Foundation. Love in Vain, qui d'ailleurs s'appelait au départ Love in Vain Blues, parle de l'amour non partagé en utilisant un train au départ de sa gare comme une métaphore de l'amour qui est là puis s'en va. En 1939, il a été publié comme le dernier des enregistrements originaux en 78 tours de Robert Johnson. Jamais la guitare de Johnson n'a été aussi subtile, même si elle est située à l'arrière-plan. Le succès de la chanson vient également de la voix de l'artiste, et en tant que telle, elle est terriblement sombre. Love in Vain a des éléments du Delta Blues ancien, et les Stones l'ont souvent interprété pour leur propre compte, même avant cet album. Et cette fois, ils ont décidé d'en faire une nouvelle adaptation. C'est la popularité de leur adaptation qui a conduit à générer un procès sur le droit d'auteur, qui a finalement été résolu en faveur de la succession de Robert Johnson. Et divers artistes, néanmoins, ont continué à l'enregistrer à travers le monde. Et ainsi, pour conclure le dossier du copyright les concernant, en 2000, il faut savoir que la Cour d'appel des États-Unis décida que les vieilles chansons de blues n'étaient pas dans le domaine public et qu'elles appartenaient toujours légalement à leurs auteurs, et là en particulier à Robert Johnson et ses ayants droit. Voici la version des Stones.
I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. I could not help but cry.
C'était Love in Vain par les Rolling Stones sur Oxy Web Radio. L'intro donnée par ce jingle est tirée de Honky Tonk Woman, paru en single en 1969, quelques jours après la mort de Brian Jones d'ailleurs. Or, c'est une version country de cette chanson, Country Honk, qui est présente sur l'album Let It Bleed. Cette chanson fut composée par Mick Jagger et Keith Richards pendant leurs vacances au Brésil, pour le nouvel an 1969. Inspirée par les gauchos brésiliens du ranch où Jagger et Richards passent leurs vacances, le titre est au départ plus une chanson country, censée jouer sous couvert d'acoustique, un peu l'ambiance des ranchs. Et comme le dit Keith Richards, au départ, la chanson était écrite comme une véritable chanson country des années 30, dans le style de Hank Williams et Jimmy Rogers. Et c'est Mick Taylor qui a poussé à en faire plus tard un rock qui est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui, Honky Tonk Woman. Donc la version Country Honk possède de légers changements dans les paroles par rapport à Honky Tonk Woman. Elle fait référence aux entraîneuses des bars du Far West qui sont parfois des prostituées. De plus, le lieu de départ se passe à Memphis dans la version rock et tandis que dans la version acoustique, ça se déroule à Jackson dans la version Country Honk. Bref, dernier et 45 tours des Rolling Stones des années 60, Honky Tonk Woman marque l'arrivée de Mick Taylor au sein du groupe. Dans la version de Let It Bleed, reste un blues de 3 minutes, tel qu'imaginé au départ par Ked et Mick. Toutefois, la version rock deviendra une chanson favorite des fans et reste aujourd'hui encore jouée en concert.
The summer sun, it shines.
C'était Country Honk par les Rolling Stones sur Roxy Web Radio. La chanson suivante s'appelle Let It Bleed. Elle a été écrite par Mick Jagger et Keith Richard et elle est sortie en single seulement au Japon en février 1970. Elle a donné d'ailleurs le nom à l'album. Ian Stewart joue du piano, ça c'est à noter sur cette piste. C'est le sixième Rolling Stone, celui des débuts, pendant que Bill Wyman joue de l'auto-harpe. L'auto-harpe, c'est une sorte de petite harpe qui était relativement utilisée à l'époque. Alors, ça s'entend pas très très fort, je vous le dis, il faut être très très attentif. Il est à noter aussi la présence de Ray Cooder à la slide guitare. Lui, c'est beaucoup plus net. Les paroles comprennent un certain nombre de références aux drogues et à la sexualité, y compris une invitation assez nette à une partie que je qualifierais de cock and sympathy. D'après le critique musical Richie Underberger, la chanson parle principalement de la dépendance affective, avec Jagger tout disposé à accepter un partenaire, quel qu'il soit, désireux de s'appuyer sur lui pour trouver un réconfort. Underberger affirme également que Let It Bleed est peut-être la meilleure illustration de la façon dont les Rolling Stones parlent de leurs sentiments à sens unique, bâclés pour les autres et très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Il loue également la voix de Jagger, déclarant que la chanson porte une de ses meilleures voix jamais enregistrées, avec une approche suprêmement paresseuse qui semble être à la fois affectueuse et moqueuse en même temps. Pas de hargne, pas de cri, tout en douceur. C'est vrai que c'est assez rare chez Mick Jagger. c'était Let It Bleed par les Rolling Stones sur Roxy Web Radio. Selon ce que dit Keith Richards dans son autobiographie, Midnight Rambler, qui est la chanson suivante, est tirée d'un titre de journal anglais dont les membres du groupe se sont inspirés pour produire cette chanson, qui est une évocation d'Albert DeSalvo, plus connu sous le nom de l'étrangleur de Boston. Début avril 69, Mick et Keith prennent quelques jours de vacances à Positano, en Italie, et ils en profitent pour composer Midnight Rambler et une autre chanson de l'album que nous n'écouterons pas aujourd'hui, Monkey Man, avant de retrouver en studio dès leur retour. Ce morceau, Midnight Rambler, va devenir dès sa sortie un incontournable de l'album Let It Bleed, et aussi des concerts des Stones. Caractéristique avec son rythme très blues, ralentissant et accélérant sans cesse en live, avec le rôle essentiel de l'harmonica. La version studio de la chanson dure 6 minutes et 53 secondes. Elle a été enregistrée au printemps de 69 à Londres. Jagger il joue de l'harmonica, il chante, tandis que Keith Richards assure toutes les parties de guitare sur cette chanson. Il faut noter que Brian Jones joue seulement des percussions, des congas exactement. Et en fait, son jeu est quasi inaudible tout au long de la piste, et même s'il a peut-être participé aux sessions d'enregistrement, il est possible que la mention le créditant sur l'album soit un simple cadeau à Jones de la part de ses anciens compagnons de groupe. Les Rolling Stones ont débuté avec Midnight Rambler sur scène le 5 juillet 69 et l'ont joué régulièrement en concert jusqu'à nos jours. La seule nuance que j'apporterai, c'est qu'à l'époque de Mick Taylor, la version sur scène durait moins de 10 minutes, alors que par la suite, après 1975 et l'arrivée de Ron Wood, certaines fois, ils atteignaient et ils dépassaient 15 minutes. De nos jours, on peut penser qu'ils restent inférieurs à 10 minutes. Lors de leur concert de Hyde Park en juillet 2013, comme à Paris en 2014 où je me trouvais, et la présence de Mick Taylor a ajouté beaucoup d'émotions dans le public, qu'on peut ressentir d'ailleurs dans l'album live Sweet Summer Sun, Hyde Park Live. Voici Midnight Rambler. Yeah.
you heard about the Boston? It's not one of those. We're talking about the midnight. The one who closed the bedroom door. I'm called Hit and Run Reaper in anger. The knife sharpened tip of toe. Oh, just a shooting dead, brain bell jangling. You know, the world I've never seen before. So if you ever meet the Midnight Rambler,
Midnight Rambler des Rolling Stones sur Roxy Web Radio.
Oh yeah!
La chanson suivante s'appelle You Got the Silver. Elle fut enregistrée le 18 février 69. Elle est la première chanson des Rolling Stones où c'est Keith Richards qui assure le chant. Keith a déjà chanté sur plusieurs chansons, notamment dans l'album Between the Buttons et également sur Beggar's Banquet. C'est l'une des compositions personnelles de Keith Richards, c'est-à-dire il ne mentionne pas Mick Jagger. Et il a été dit à l'époque qu'elle a été écrite pour Anita Pallenberg, qui était sa compagne à ce moment-là. C'est le dernier enregistrement des Rolling Stones avec Brian Jones. Il joue de l'auto-harpe, une de ses deux dernières apparitions dans l'album. Le groupe a enregistré une version avec Mick Jagger au chant, mais finalement ils ont préféré garder la version de Keith Richards pour la version officielle. La version de Mick Jagger est sortie plus tard à l'occasion de compilations. You Got the Silver devait faire partie de la bande son du film Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, mais elle n'a pas été retenue au profit de la bande proposée par le groupe Pink Floyd qui débutait à l'époque et dont l'univers musical collait mieux avec la thématique du film. Cette chanson a été interprétée en concert pour la première fois lors de la tournée No Security Tour en 1999. Depuis, Keith Richards l'a chanté assez régulièrement, et en particulier, il l'a chanté à Paris, toujours avec le même plaisir exprimé par le public, malgré la voix très éraillée de Keith Richards.
Hey baby, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul. You got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. buy some time. Kitchen door.
C'était You Got the Silver par les Rolling Stones sur Roxy Web Radio. Nous voici arrivés à la dernière chanson de l'album. Elle s'appelle You Can't Always Get What You Want. C'est une chanson écrite par Mick Jagger et Keith Richards. Elle est classée 100e sur la liste des 500 plus grandes chansons du magazine Rolling Stones. Sa caractéristique est la participation des chœurs du London Beck Corps, qui interprètent puissamment le début du titre, sous la direction de Javier Sanchez Proto, puis font les voix de fond durant tout le reste de la chanson, redevenant plus fortes lors de l'explosion finale du morceau. Jimmy Miller, donc, était le producteur à l'époque, c'est lui qui joue à la batterie à la place de Charlie Watts. En effet, Charlie Watts n'arrivait pas à trouver le bon rythme. Al Cooper, que l'on connaît déjà, est au piano. Il joue aussi de l'orgue et également le cor que l'on entend régulièrement. Tandis que Rocky Dijon est au congas et au maracas. Nanette Workman fait partie des chœurs, même si elle apparaît sur l'album sous le nom de Nanette Newman. À propos de la chanson, Jagger déclara en 2003 « Au début, c'était un titre que je jouais simplement sur ma guitare acoustique. » Un peu d'ailleurs ce qu'on va entendre au bout de quelques dizaines de secondes de la chanson. C'était une chanson toute calme à l'ambiance domestique, poursuivit-il. Elle se révéla assez dure à enregistrer, puisque comme je le disais, Charlie Watts ne pouvait pas jouer le groove. Mick Jagger ajoute aussi qu'il avait également eu l'idée d'y intégrer un chœur, sûrement pour jouer un peu le rôle d'un chœur de gospel, mais il n'en existait aucun de disponible à ce moment-là à Londres. Et Jack Nitz, ou quelqu'un d'autre de l'équipe, suggéra le London Beck Corps, et tout le monde lui avait répondu ouais, « Tu parles d'une rigolade ». Et ce fut pourtant eux qui sont venus. La chanson est composée de 4 couplets qui font référence à des sujets majeurs des années 60. L'amour, la politique, la drogue, la guerre... Chaque strophe expose l'essence même de l'optimisme initial et du désenchantement final, suivi par un pragmatisme résigné dans le refrain, parfaitement résumé dans le titre de la chanson. Hindenburger conclut à propos de cette chanson, les paroles font référence à la fin de la trop longue fête que représentaient les années 60, comme un instantané du Swinging London en train de brûler. C'est une interprétation valide, mais il est important de se rendre compte qu'il y a également un côté rassurant et euphorisant dans la mélodie et l'interprétation. Cela est particulièrement vrai dans la principale accroche du titre, quand on nous rappelle que nous n'avons pas toujours ce que nous voulons, mais nous aurons au moins toujours ce que nous avons besoin.
saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. You get what you need. Oh yeah. Woo! It's just my fight. It's just my fight.
c'était You Can't Always Get What You Want des Rolling Stones sur Roxy Web Radio. Album, les Stones montrent, malgré la triste fin de Brian Jones, qu'ils gardent la main. Ils n'ont pas oublié le blues, ils savent toujours faire du rock, leurs textes sont contemporains et pertinents pour la jeunesse. Mais ils savent aussi absorber et restituer les tendances musicales du moment, entre psychédélisme et sonorités nouvelles. À la sortie de l'album, Richie Underberger dit ceci. Si vous accordez crédit à la remarque de John Lennon estimant que les Rolling Stones étaient capables de copier les innovations des Beatles avec quelques mois de délai, alors You Can't Always Get What You Want est l'équivalent pour les Rolling Stones de Hey Jude. Et c'est vrai que Jagger déclara en 1969 « J'ai beaucoup aimé la manière dont les Beatles ont enregistré Hey Jude. L'orchestre n'était pas là pour brouiller ensemble, il ajoutait vraiment quelque chose en plus. » Nous ferons peut-être quelque chose du même genre sur notre prochain album. Et je pense que c'est ce qu'ils sont arrivés à faire avec Let It Bleed. Seulement voilà, à la différence des Beatles, les Stones ne disparaissent pas. L'apport de nouveau guitariste, Mick Taylor, va leur permettre de rester cohérent avec la scène rock du moment, pour continuer de rester le plus grand groupe de rock'n'roll du monde, et d'un peu plus peut-être. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une étoile filante. Partie de très loin et encore visible de nos jours, malgré un très bref passage près de la Terre. Creedence Clearwater Revival et leurs 4 premiers albums, tous sortis en 16 mois et tous connurent le succès. Mais d'ici là, roulez blues!